plus difficile. Comment peut-on parler de sacrement au niveau religieux? N'est-ce pas proprement chrétien? Ah, ça, c'est une bonne question. Parce que je ne crois pas que ce soit proprement chrétien. Il y a des sacrements de l'Ancien Testament. L'agneau pascal est un sacrement. Mais ce n'est pas le même sacrement que le sacrement de la loi nouvelle. Il y a des sacrements païens. Je donne un exemple.
C'est dommage, il est beau.
Regardons le sacrifice. Le sacrifice. Où l'homme offre à Dieu un sacrifice. Alors mettons une brebis. Par cette offrande, il offre quelque chose, c'est un acte personnel de la vertu de religion, c'est un acte personnel, et il offre quelque chose de ses richesses, et, Seigneur, puisque j'ai tout reçu de ta main. Voilà. Et puis, il fait ça en famille. Et la brebis, offerte, tuée, cuite, et partage. Il donne des bouchées à ses participants. Participe au sacrifice. Cette réalité qui a été offerte est comme appartenant à Dieu. Et si je m'en sers, vous voyez, je m'en sers pour rentrer en communion avec Dieu. C'est naturel. Il n'y a pas que les juifs, il n'y a pas que les chrétiens. On prend ce qui a été l'objet du sacrifice, et c'est pour ça qu'il y a les fameuses histoires des viandes immolées aux idoles, dans les Actes des Apôtres. Manger les viandes immolées aux idoles, c'était comme participer au culte à travers les sacrements du sacrifice. Oui. Le sacrifice, j'y participe par des sacrements de ce sacrifice. Et en mangeant des viandes immolées aux idoles, on semblait participer à ce culte. Alors saint Paul dit ça, écoutez, comme les idoles sont rien, les sacrifices aux idoles c'est rien, vous pouvez très bien manger ces choses-là. Sauf si en mangeant, vous scandalisez, parce que vous donnez l'impression de communier au sacrifice des idoles. Ce qui prouve que cette viande est un sacrement, mais un sacrement d'ordre naturel, je dirais plutôt conventionnel, une espèce de convention entre les hommes, qui fait qu'en participant, en mangeant de cette brebis, je participe au sacrifice qu'il a offert. Vous voyez ? Mais je peux dire d'une certaine manière qu'il est reçu parce qu'il est autre une fois qu'il est sacrifié qu'avant. Il est sacrement parce qu'il a été sacrifié aux idoles. Donc je peux dire d'une certaine manière que je l'ai reçu. Et derrière ça, vous pouvez voir le mystère chrétien. Mais vous voyez, ce que je trouve très important, c'est de comprendre qu'on peut vivre ce que nous vivons de façon très extérieure, simplement naturelle. Alors, la deuxième chose qu'il faut bien, auquel il faut faire attention, ne séparons jamais les deux actes intérieurs. Il peut y avoir des actes intérieurs seuls, il ne peut pas y avoir d'actes extérieurs qui ne soient aussi intérieurs. Bon, ça. Maintenant, regardons la religion chrétienne. Le culte chrétien. Le culte. Qu'est-ce que c'est que le culte? Entre le prêtre et la cité.
Oui, parce que c'est naturel.
J'ai pas très envie. Mais Non, mais c'est vrai qu'il y a une réflexion à faire. Est-ce que celui qui représente la cité la représente naturellement ou conventionnellement? Je ne crois pas dire de bêtises que je dise qu'il en existe des communautés naturelles. Non, la communauté de la famille est une communauté naturelle. La cité est une communauté naturelle. Qu'on se rassemble pour le thème, le bien vivre, le bien commun. Dès qu'il y a un bien commun, il y a une communauté naturelle. L'État, c'est une certaine communauté naturelle. Homme, en tant qu'homme. C'est ça? En tant qu'homme. Il y en a? Mais laquelle? Enfin, c'est le message du Christ, c'est ça que la question. Je ne crois pas qu'il y en a un qui fasse l'unité de tous les hommes et qui puisse offrir au nom de tous les hommes, sinon le Christ. Est-ce qu'il peut offrir indépendamment des hommes? Alors tout dépend si c'est mandaté par eux ou si c'est choisi par Dieu. Là on va venir. Il y a deux types de mandats, mais c'est un peu spécifique. Je ne veux pas régler tous les problèmes, je veux les situer. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Vous voyez où j'en suis? Alors il faudrait détacher tout ça, puis après on.
Est-ce que vous pouvez expliciter l'étymologie du mot sacrement pour comprendre comment il est sacrement pour les païens?
Sacré, je crois que c'est surtout ça. Parce que le mysterion, mystère, les mystères, le grec mysterion, a été souvent traduit par les mystères pour dire en fait les sacrifices. N'est-ce pas? Les mystères. Les mystères païens. Mais. Quand c'est traduit par le latin sacramentum, alors là c'est les choses sacrées. Les choses sacrées. Mais il y a toute une. Alors tu dis pourquoi ça? Pour mieux comprendre.
Ouais. Il y a une prise païenne, parce que quand on entend le mot sacrement, on pense tout de suite au sexe sacrement.
Oui, c'est pour ça.
On n'a plus le sens.
Voilà, c'est pour ça que j'ai insisté un peu pour parler d'un culte païen, d'un culte humain, naturel. Maintenant j'essaie de comprendre. Quel va être le culte chrétien? Alors, s'il vous plaît, laissons les sacrements. Hein, on va y venir. Mais commençons par regarder le reste. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le chrétien offre un culte à Dieu? Il doit offrir un culte à Dieu. Ce qui caractérise le chrétien, ça c'est une de nos sessions, où on avait dit, je sais pas, c'est de connaître le mystère de Dieu dans l'incarnation du Christ. Alors, qu'est-ce qui va caractériser l'acte intérieur du chrétien? Vous me direz, il y a la dévotion et il prie, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, précisez plus. L'Esprit Saint, oui, c'est évidemment l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, à travers vous, dans votre âme, ça se manifeste dans des actes très propres, très particuliers. L'adoration, mais ce n'est pas propre aux chrétiens.
C'est le redonner le Christ au Père.
La grâce. Oui, la grâce, fondamentalement. Donc, le chrétien reçoit la grâce. Mais la grâce, en lui, s'épanouit dans la foi, l'espérance et la charité. La foi nous donne une connaissance de Dieu nouvelle. Je découvre Dieu dans un mystère, dans une transcendance et dans une vérité plus grande, ce qui fait que l'acte de justice par lequel je vais lui rendre ce qui lui est dû sera éclairé par la foi. Vous êtes d'accord ? La foi va comme apporter à mon attitude personnelle une dimension nouvelle qui va aller beaucoup plus loin, parce que ce Dieu que j'adore, je n'ai pas à le craindre, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui m'a sauvé, c'est un Dieu qui est miséricorde, et ce qui fait que non seulement je lui dois la création, mais je lui dois aussi ma rédemption, et donc la dette que je lui dois est comme éclairée par ma foi. Par conséquent, mon culte va être éclairé par la foi. C'est la foi qui va comme apporter à ma dévotion et à ma prière une attitude nouvelle. Disons, à mon âme, cette attitude religieuse, qui est toujours religieuse, qui est toujours l'homme qui rend à Dieu, mais qui est éclairée par ce que Dieu lui-même a dit de lui-même. Ce qui fait que le culte que je lui rends est éclairé par la sagesse même de Dieu. Mais je découvre le mystère dont je dépends avec une lumière nouvelle, qui est la foi. Et cette lumière nouvelle, elle fait de l'homme religieux que je suis une religion chrétienne. Et la foi, quand Saint Jacques dit « Montre-moi la foi sans les œuvres, moi, c'est pas les œuvres qui montreraient ma foi », c'est-à-dire cette foi qui éclaire toute ma religion. Alors, la foi, mais l'homme qui se reconnaissait créature, il la reconnaissait avec sa propre sagesse humaine, tandis que là, le chrétien, lui, il s'appuie sur le témoignage même de Dieu, sur lui-même. Le chrétien, il découvre le mystère de Dieu à partir de ce que Dieu dit de lui-même. Et je crois en ce que Dieu m'a révélé sur lui-même. Ce qui fait que je découvre le mystère de Dieu d'une façon nouvelle. Et le découvrant d'une façon nouvelle, ça fait jaillir en moi un culte nouveau. C'est toujours un culte. C'est pour ça que je peux prier avec les musulmans, avec les autres qui prient leur créateur, je peux, assise. Nous tous, nous nous tournons vers notre créateur, mais pas en sorte qu'il y a la même prière pour nous tous. Chacun de nous se tourne vers son créateur avec la lumière qu'il a sur lui. Le chrétien, le musulman, le juif, le païen. Chacun avec sa lumière, adore, offre sacrifice, offre, participe au sacrement, prie, éclairé par sa foi religieuse, ses traditions, ou cette foi théologale, cette foi divine qui vient du don de la grâce de Dieu. Là, je réfère précédent. L'espérance. Par l'espérance chrétienne, Dieu me donne cette certitude que je vais acquérir ce qu'il m'a promis. Vous voyez, comme l'espérance va éclairer ma prière. Celui qui prie avec espérance, comme dit Saint Jacques, vous qui priez, celui qui prie doit savoir qu'il va obtenir ce qu'il demande. Oui, c'est l'espérance. C'est l'espérance chrétienne qui va apporter à la prière un feu nouveau. Parce qu'évidemment, quand je demande, je ne suis pas sûr d'obtenir, c'est pas très violent comme demande. Mais quand je suis éclairé par l'espérance, quand je tiens déjà ce que j'attends, parce qu'il m'a promis la béatitude, parce qu'il m'a promis mon bien divin, je peux lui demander. L'espérance, vous voyez, va fortifier ma prière, cette attitude de l'âme intérieure. Tandis que la charité va donner à la dévotion une intensité, une ferveur qui ne m'appartient pas, qui est celle de Dieu. Parce que l'amour divin, l'amour de charité, c'est l'amour qui vient de Dieu et qui fait que c'est Dieu qui sème en moi. Donc vous voyez, là, alors c'est donc les actes intérieurs qui changent, d'abord, les actes intérieurs qui changent, qui sont comme éclairés par la vie de Dieu, cette vie nouvelle qui est en nous. Ce qui fait qu'une prière qui ne s'appuierait pas sur la foi, qui ne porterait pas sa force dans l'espérance, et qui n'aurait pas sa ferveur dans la charité, n'est pas chrétienne. N'est pas chrétienne. On est souvent des êtres religieux, mais on n'est pas souvent chrétiens. On est des êtres religieux parce que oui, à Dieu, je le prie. Je l'adore. Ça devient très rare. Voilà. Mais le chrétien, il se laisse éclairer, il prend dans la foi, dans l'espérance et la charité, le levier de son culte.
Comment peut-il expliquer alors que quand saint Paul dit que Abraham, c'est le père de notre foi, oui. Abraham aura eu la foi.
Bien sûr, il a la foi. Bien sûr.
Mais dans quel sens, alors, quelle différence entre la foi chrétienne et la foi d'Abraham?
Alors ça, vous allez voir ça demain. La foi, c'est la réponse de l'homme à la parole de Dieu. Dieu entre dans l'histoire, tu l'accueilles. Alors tu as la foi. Tandis que l'homme religieux, c'est pas Dieu qui rentre dans l'histoire, c'est lui qui monte l'échelle du ciel. Non ? C'est l'homme qui, ayant découvert que Dieu est au cœur de ce monde, lui offre, lui donne, selon ce qu'il sait de Dieu, tout ce que. Voilà. Cette attitude qui est une attitude humaine par laquelle je me tourne vers mon Créateur. C'est-à-dire que la foi, c'est Dieu qui rentre dans ta vie et toi tu réponds. Alors, les Juifs, Dieu a parlé aux Juifs. Abraham, il a cru. Il a obéi, il a répondu. C'est le Père notre foi. Nous disons qu'il est rentré dans notre vie par le Christ, par la parole de Dieu, par le Christ. Et nous répondons quand nous croyons au mystère du Christ. La foi, c'est cette réponse à l'entrée de Dieu dans mon histoire, soit par la parole, soit par le Christ. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça change tout ça là? Est-ce que l'adoration est changée? Est-ce que les sacrifices sont changés? Est-ce que les sacrements... Alors, rentre un peu dans le détail. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront en esprit et vérité. Jésus à la Samaritaine. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous ne le connaissez pas parce que vous le confondez, ce Dieu unique, avec les autres. Vous le mettez au même rang que les autres. Donc, c'est pas vraiment Dieu. Mais enfin, vous adorez votre Créateur, alors vous l'adorez. Vous adorez bien votre Créateur, mais vous ne le connaissez pas. C'est bien votre Créateur, mais vous ne le connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons celui que nous connaissons. Oui, nous le connaissons puisque Dieu lui-même se fait connaître. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. En esprit et vérité. L'adoration qui prend sa valeur dans l'acte intérieur, qui est éclairé par la foi, l'espérance et la charité, voilà l'adoration de l'esprit véritable. Cette adoration par laquelle tout mon corps sert ma religion intérieure, cette adoration, elle est renouvelée dans le Christ. C'est vrai, elle est renouvelée dans le Christ. Les sacrifices, que je peux offrir des sacrifices à Dieu.
Vous dites, je fais des sacrifices toute ma vie.
Je fais des sacrifices. Ça veut dire, on apprend aux petits-fils, faire des sacrifices. Fais des sacrifices. Qu'est-ce que c'est que ces sacrifices?
Une sorte de sacrifice personnel ou une sorte de sacrifice l'animal?
Ah voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est le sacrifice qui nous a rendus saints et par lequel nous rentrons en communion avec Dieu? L'unique sacrifice de Christ. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Il n'y en a qu'un. Et on dirait, mais alors, tous nos sacrifices. Faire de toute notre vie autant de sacrifices spirituels. Avançons. Tout sacrifice prend sa valeur dans l'unique sacrifice du Christ. Donc je ne peux rien offrir d'autre qui plaise à Dieu que le sacrifice du Christ. Ça, c'est ce que je sais, moi, comme chrétien. Je ne peux rien offrir d'autre. Tout ce que j'offre, c'est en communion au sacrifice du Christ. Mais tout ce que j'offre, c'est pour m'unir au sacrifice du Christ. Tout ce que je peux offrir de mes dons, de mes biens, c'est toujours, de ma vie, c'est toujours pour m'unir à l'unique sacrifice du Christ. Et là, on voit donc qu'il y a une certaine communion à la croix du Christ. Communion au sacrifice du Christ. Dans la mesure où c'est une offrande de moi-même à travers ces choses que j'offre. Et les sacrements, alors nous allons y arriver. Les sacrements, si ce sont des dons de Dieu, nécessairement seront relatif au don par excellence qui est le mystère du Christ. Là, j'ai une autre.
J'ai laissé tomber la charité.
Oui, mais j'ai pas laissé tomber. Mais non, faut insister un petit peu. La charité éclaire la dévotion. La charité donne à la dévotion, vous voyez, tout son prix. Toute, elle est essentielle, hein, pour les chrétiens, la charité. Si vous n'aimez pas, comment pouvez-vous offrir? Comment pouvez-vous vous tourner vers Dieu? Donc, il ne faut pas la laisser tomber. Hein. Bon, mais vous voyez, là, je veux juste montrer la relation entre le culte chrétien et les vertus théologales. Vous voyez bien que toute votre attitude religieuse a besoin d'être renouvelée par la foi, l'espérance et la charité. Donc, quand on prie, la première chose à faire, c'est ces actes de foi, d'espérance et de charité qui vont donner à toute ma prière, à toute ma vie religieuse, sa dimension. Bon, j'ai perdu mon... Il y avait quelque chose que je ne voulais pas lâcher, je l'ai lâché, c'est pas grave. Vous n'avez pas de questions? Les vertus théologales sont par définition infuses. Mais l'adoration, les vertus théologales, vous voyez, elles vont éclairer la vertu, mais vous aurez aussi une vertu infuse. Hein? Là, vous rentrez dans des détails sur lesquels je ne veux pas trop rentrer. Exprès. Mais ce que je veux souligner, c'est vrai que la grâce, qui est une âme, la grâce est pour moi comme une âme. C'est l'âme de mon âme. Si mon âme peut acquérir des vertus, l'âme qu'est la grâce va me donner des vertus. Parce que la grâce, c'est un don. Alors la grâce, elle va me donner non seulement la foi, l'espérance et la charité, mais elle va me donner aussi la vertu de religion. Il y aura une vertu qui viendra de la grâce, une vertu infuse, une vertu qui vient de Dieu, qui vient de la grâce. Et vous me direz, mais voyez, moi je vous pose la question, vous la sentez comment, la vertu infuse? Je veux dire, il faut l'exercer. Vous l'exercez quand vous l'exercez dans la foi, l'espérance et la charité. La vertu infuse de religion, elle s'exerce dans la foi, l'espérance et la charité. Hein? Bon. Venons maintenant au mystère du Christ. Le Christ. Grand prêtre, pris d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume de prêtres. Le Christ, c'est le prêtre. Le prêtre. Prêtre de qui? Quelle est la cité dont il est le prêtre?
Le monde.
Le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Voilà celui qui fait l'unité de tous les hommes. Mais ça, c'est la foi. Le Christ, il est celui qui rassemble en lui tous les hommes. Rassemblant en lui tous les hommes, le culte qu'il offre est pour tous les hommes. Alors regardez bien. Je crois que le Christ est le grand prêtre de l'humanité entière. C'est de foi. Hein? Vous connaissez le passage de l'Épître aux Hébreux. Grand prêtre pris d'entre les hommes. Choisi. Il est au milieu des hommes. Bien, ce grand prêtre, il a offert un culte à Dieu. Pour l'humanité entière. Et le culte qu'il a offert, c'est le culte qui a vraiment rendu à Dieu son dû, non seulement rendu son dû, mais réparé tout ce qui n'a pas été, le péché. Alors, le Christ, dans l'amour, je ne dis pas, dans la charité, et dans la connaissance qu'il avait de son Père, qui n'est pas la foi, avait une adoration, une religion unique. C'est un homme, qui connaissait Dieu en vérité, et qui l'aimait comme Dieu seul peut l'aimer. Et donc le Christ a offert un culte, le culte, en qui Dieu a trouvé toute gloire, tout honneur. Hein? Et non seulement il a fait, mais il a adoré le Christ, il a adoré, s'offrant de tout son être dans sa personne. Mais l'homme, il faut essayer de toucher ça. Et cet acte de l'homme, de l'âme humaine de Jésus, et puis qui s'incarne dans l'adoration du Christ, l'adoration du Christ, la prière du Christ. Vous essayez de regarder souvent. Et il a offert un sacrifice, non en s'offrant les choses qu'il avait, parce que le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête, hein, mais et il a voulu la pauvreté pour pouvoir s'offrir lui-même. Il s'est offert lui-même. Offert tout entier. Et il a donné aux hommes les sacrements. Il a donné aux hommes les sacrements.
arrive à cette question, c'est le fameux moment où Jésus, la veille de sa passion, prit le pain, voici, ceci est mon corps, livré pour vous, prenez et mangez. Vous voyez, le mystère du sacrifice, livré pour vous, prenez et mangez, c'est-à-dire participez. Et il dit bien, c'est très clair pour les apôtres, que c'est un acte sacré. Faites cela en mémoire de moi. Donc, il donne des sacrements invitant aux apôtres à faire de même, à s'en servir. Et depuis, l'Église célèbre l'Eucharistie et sans cesse, par l'adoration eucharistique, offre le Christ à Dieu. Alors, on vient maintenant au sacrement. Mais le Christ est prêtre de l'humanité entière. Mais, et c'est un peu le secret du jour d'aujourd'hui, c'est que ce prêtre, il est tête. Il est tête d'un corps. Ce prêtre, il est unique. Il est unique. Mais il veut être la tête. Ce prêtre, il veut être la tête d'un corps. Ce corps, c'est l'Église. Quand je dis le corps, je pense la tête et les membres. L'Église, c'est plus tard avec le Christ. Ce prêtre n'est pas simplement prêtre, il est tête. Il veut être avec l'Église, avec son corps, qui est le pléroma, qui est l'achèvement de son sacerdoce. Il veut être avec l'Église, prêtre de l'humanité entière. Et le Christ suffit, parce que son culte a réparé toute dette. Mais il a voulu être achevé. C'est très beau le texte qu'on a ce matin. Il y a un complément. Il est accompli. Il n'est accompli que dans l'Église. Ça, c'est une volonté du Christ. Il s'accomplit. Il n'est que tête, il veut un corps. Donc, ce prêtre, tout unique qu'il est, veut un corps, comme dira Isabelle de la Trinité, nous sommes le complément. Suivez, je crois que c'est très important de comprendre ça. Je m'appuie sur donner de foi, Saint Paul le dit, il est corps, tête et corps. Le texte aujourd'hui était très net. Vous voyez, le Christ non seulement a été ressuscité, mais il a été fait tête de l'Église. Alors, le prêtre de l'humanité entière, le voilà, depuis l'ascension.
Oui, c'est pourquoi l'Église ne s'identifie pas avec l'humanité entière.
Alors oui, on va y venir. On va y venir, justement. Parce que tout le problème est de savoir qui est corps. Comment est-on le corps du Christ? Vous voyez, tout homme reçoit la grâce de Dieu par le Christ, c'est clair. Mais est-ce que tout homme est choisi par le Christ pour être le complément du Christ? Alors là, c'est la question. Est-ce que tout homme, est-ce que l'Église s'assimile à l'humanité entière, ou est-ce que l'Église reste dans le monde, le mystère du Christ.
comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur. L'Église, alors on va prendre le texte maintenant, l'Église, ce sont, quand je parle de l'Église, corps, l'Église dans le monde, parce que vous pouvez avoir plusieurs acceptions du terme de l'Église. Si vous regardez l'Église au sens corps mystique du Christ, c'est-à-dire ceux qui sont unis avec le Christ de sorte qu'ils ont la même vie que lui, ce sont tous ceux qui ont la grâce du Christ. Et dans ce cas, l'Église s'étend bien au-delà des frontières du baptême et atteint dans l'humanité entière tous ceux qui sont de bonne volonté et se laissent éclairer par la grâce. Vous verrez ça demain. Tandis que si vous regardez l'Église de ceux qui ont été choisis et mis dans ce monde aujourd'hui de façon visible, comme le Christ a été visible pendant un temps, alors à ce moment-là, il faut les dire. Ceux qu'il a choisis. Et c'est pas pour rien que c'est lié à l'ascension. Disparaissant, il faut que son corps demeure. Il faut qu'agisse son corps. Il faut qu'agisse ce qu'il a choisi. Les apôtres. Et si vous lisez la suite des Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure, vous avez Saint Paul qui verra très bien son corps. Il parle de son corps institué. Les apôtres, les ministres, les prophètes. Hein. Donc ceux qui ont été choisis, les apôtres, mais au fond, tous les baptisés. Alors maintenant, j'en viens. J'ai parfaitement conscience de vous larguer tous, mais je crois qu'il faut ça. Parce qu'on a une telle conception des sacrements qu'on en fait des choses qui sont des absolus. C'est vrai, c'est un absolu. Mais qu'il faut absolument vivre dans la dimension, comment dire ça, qui est la leur. Ce sont des sacrements. C'est-à-dire des biens donnés aux hommes pour qu'ils puissent offrir à Dieu le culte véritable. C'est pas pour rien, parce que le culte véritable, c'est le culte de ce prêtre. Les sacrements, c'est ce qui va nous permettre que le mystère de Jésus s'étend en moi. Mais le mystère de Jésus comme prêtre, pas simplement comme fils bien-aimé. Le mystère de Jésus comme celui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, celui dont le culte est source pour les hommes de salut. Vous voyez, le Christ a offert un culte qui a rendu le regard de Dieu tellement bienveillant pour les hommes que Dieu a comblé les hommes de sa grâce. Eh bien, le culte de l'Église n'est pas autre que le culte du Christ. C'est le culte du Christ. Je ne peux pas séparer les sacrements du mystère du Christ. C'est tout un, mais c'est pourtant le culte de l'Église. C'est et le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Église. Mais c'est tout un. Et ceci pourquoi ? Par choix. Il a choisi des hommes, non pas pour qu'ils soient plus que les autres, mais pour que par eux, les hommes soient sauvés. De même qu'il a choisi le Christ, le Père a choisi le Christ pour que par lui, tout homme soit sauvé. Le Christ a choisi l'Église pour que par l'Église, tous les hommes reçoivent le salut. Alors, ne séparons pas le chef corps, ne séparons pas les sacrements du mystère du Christ, ne séparons pas les prêtres du prêtre, mais comprenons que c'est tout un. C'est ça qu'il faut creuser maintenant. Alors, on commence à creuser les sacrements. Ça va ? Bon, est-ce que vous avez des questions ?
faut les poser.
Oui, en fait, le culte de l'Église est le prolongement du culte du Christ.
Voilà. C'est, vous voyez, je peux dire l'achèvement, le plérôme, la plénitude. La plénitude. Et comme si il y avait un quelque chose du Christ qui ne peut pas atteindre sa plénitude sans l'Église. C'est pas pour rien que dans la prière sacerdotale, il demande « Glorifie-moi ». La gloire, quelle est la gloire du Christ? Quelle est la gloire du Christ? C'est le pléroma, c'est la plénitude du mystère de Jésus, c'est l'Église. Alors vous pouvez le lire à plusieurs manières. Humaine, vous pouvez penser que c'est la glorification de son corps dans la résurrection, ou vous pensez que c'est la glorification de son corps mystique qu'elle est l'Église. Et alors c'est là qu'il y a des possibilités de lecture, et on ne comprendra pas pourquoi Jésus a dit qu'il soit un pour que le monde croit en l'unité. Rien. Il y a un pléroma. Il a plu au Christ que le sacrifice s'étende à l'Église pour que son mystère devienne le nôtre, tout simplement. Il ne manquait rien. Tout était fait. C'est exactement le sacrifice d'Élie. Il était prévu sur le sacrifice du Carmel que le feu du ciel tombe sur la victime, à point c'est tout. Eh bien, vous avez vu ce qui s'est passé, enfin, vous n'avez pas vu. Il s'est étendu à l'autel et à l'eau. Il y a eu une plénitude où le feu du ciel s'est emparé de toute l'Église pour que le monde croit. Le peuple d'Israël était là, c'est efficace. Oui, il y a une différence. Mais la différence est selon le mode, mais pas selon l'aspect essentiel. Vous voyez ? Parce que c'est la grâce qui en moi devient foi, espérance et charité. Mais la grâce n'est pas autre que la vie divine, et c'est la grâce même du Christ. C'est vrai que dans le mode, c'est dans la foi. Je n'ai pas la sensation que j'offre le sacrifice du Christ. Non, non. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère de foi. Je suis dans le Christ par appel du Christ. Appelé à être le pléroma du Christ. Alors, c'est plutôt son culte qui s'empare de nous. Hein? Mais pas, oui. Et auquel, dans lequel nous rentrons, si vous voulez. Mais, voyez, bon, je vois ce que vous voulez dire. Il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas chosifier. Hein? Je suis en théologie, j'analyse. Hein? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que il y a un mystère qui est l'appel des disciples. Pourquoi est-ce que Jésus a voulu passer par eux? Et par les disciples, l'Église. Pourquoi? C'est un mystère. C'est le même mystère. Pourquoi le salut a-t-il été donné par le Christ? Dieu aurait pu. C'est pensable. Sauver les hommes simplement par une simple volonté. Je vous pardonne. Vous seriez racheté par un acte de grandeur de Dieu. Voilà. Pure gratuité. Mais il a plu à Dieu de nous racheter par le culte du Christ. Et il a plu au Christ que le mystère qui est le sien s'étend à l'Église. Pour que nous, offrant ce culte chrétien, voilà le culte chrétien, nous continuons d'obtenir pour le monde d'aujourd'hui le salut.
Quand il dit que l'humanité entière doit être rassemblée à l'Église. Donc on montre bien l'unité. Est-ce que l'Église est la tête du monde? J'ai du mal. Je veux dire, là, on dit sacrement. On dit que l'Église est le sacrement de l'unité du genre humain. Elle est à la fois le signe de ce que doit être le genre humain et l'instrument par lequel ça commence. L'instrument par lequel le genre humain sera unifié au Christ. Alors, j'aimerais pas dire que l'Église est tête. Voilà, je reviens. Donc elle est prêtre. Elle est